fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Ouattara hat den Krieg in der kritischen politischen Elfenbeinküste letzten Freitag beendet. Die Situation ist jedoch immer noch gleich. Wir werden mit unserem Gast per telefonisch über diese kritische Situation in Elfenbeinküste heute Abend berichten. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce programme panafricain de Radio Canal K dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous retenons ce soir pour l'actualité politique africaine la crise politique ivoirienne qui continue de susciter de vives réactions suite à une guerre infernale entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, faisant de nombreux morts et des milliers de déplacés. Et pour ce dossier, nous aurons en ligne dans quelques instants le panafricaniste Jean Kassongo qui nous fera ses analyses sur la crise ivoirienne. Nous allons également parcourir l'actualité politique au Togo, en Guinée, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, bien sûr, avec Madame Brigitte Amegambi de Synergie Togo qui nous donnera aussi ses impressions sur la démocratie qui bascule dans certains pays africains. Elle tentera de répondre à nos questions en direct depuis la France. Et sous l'œil vigilant de Gisela Rosato, Josué Maoli et Esteban Gagnon s'occupent de la programmation. Romain Koudjodi est toujours avec nous depuis Bonn en Allemagne. Romain, bonsoir. Évidemment que la ligne est vraiment saturée. Collaboration parfaite de Fabi Kouassi depuis Lomé. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique au micro de Sylvain Amos. Mesdames, messieurs, amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, merci d'être connectés sur le www.canalk.ch. J'espère que la ligne est actuellement rétablie. Nous allons tout de suite écouter l'éditorial de Romain Koudjodi, signé de Romain exactement depuis Bonn en Allemagne.
La paix pour la Côte d'Ivoire. La guerre est un mal qui déshonore le genre humain. Georges Clemenceau. À l'initiative de la France et sur le mandat de l'ONU, les principales puissances occidentales se sont lancées il y a quelques jours dans une entreprise de destruction du système politico-militaire de Laurent Koudou Gbagbo en Côte d'Ivoire. La France a engagé contre les forces loyales de Gbagbo des moyens aéronavals impressionnants. Les bombardements sans relâche ont eu lieu sur le camp tenu par les forces loyalistes en début de cette semaine. Pour la première fois de son histoire, la Ligue arabe s'est montrée sensible à l'état de l'opinion et a suspendu Kadhafi de l'organisation en raison de sa politique répressive. Ben Ali et Moubarak ne s'étaient-ils pas inclinés, eux, devant le soulèvement de leur peuple? Pour bénéficier de sa caution, la France a essayé maintes fois de convaincre. L'Union africaine, dont la Côte d'Ivoire est membre. Au début des opérations de frappe, les Français ont tout simplement oublié d'associer cette même Union africaine à leur entreprise. Il est vrai que le président de sa commission, Jean Ping, ne s'était signalé ni par la clarté de ses positions, ni par un grand activisme. L'Afrique a été exclue d'un débat qui aurait dû être prioritairement le sien. Et c'est un pays colonialiste, paternaliste et gaulliste, comme la France, qui n'a plus besoin de le dire, joue le va-t-en-guerre comme dans un film de cow-boy et de l'Indien. Ainsi, le pays du vieux est sous le feu de forces étrangères en quête de glorioles personnelles et de défense de leurs propres intérêts. De quelle légitimité politique, oui, de quelle crédibilité morale et au nom de quoi ces puissances, notamment la France, qui ne tiennent pas leur engagement et qui affament les peuples, pillent les ressources des pays pauvres peuvent-ils se prévaloir pour déclencher une guerre à un pays souverain? Le cacao et le caoutchouc sont-ils absents de leur motivation? Ne veut-on pas régler aussi son compte à Gbagbo pour ses velléités impérialistes? Chers amis fidèles auditeurs de notre émission, ouvrons ensemble une fenêtre sur ce cas de figure. Nous ne croyons pas aux vertus de bombardement aérien pour installer la démocratie ou pacifier un pays. Protéger les populations signifie en pratique chasser Gbagbo et le remplacer par un Ouattara reconnu par la communauté internationale si l'on va au bout de la logique de la France. Une opération aérienne n'a jamais permis de remporter une guerre. Et ce qui gêne particulièrement dans cette histoire, c'est qu'on prétend installer la démocratie et un état de droit avec des bombardiers. À chaque fois qu'on essaie de le faire, non seulement on a échoué, mais le remède qu'on prétend apporter était pire que le mal. Le spectacle d'avions français et de l'ONU bombardant un pays africain n'est pas beau à voir et ne fait plaisir à personne. Il nous faut, en tant que panafricanistes, répondre plus rapidement et plus efficacement à ce genre de situation. L'équipée militaire occidentale contre le système Gbagbo a déjà fait des dégâts et en fera encore sans apporter de solution durable. Il faut donc qu'elle se termine vite. Pour certains observateurs, Gbagbo et Ouattara ne peuvent plus conduire la Côte d'Ivoire à la paix car ils appartiennent désormais au passé. Alors, dans ce cas de figure, il faut une voie intermédiaire. Mais laquelle? Chers amis fidèles auditeurs, nous nous posons et vous posons aussi cette question. Nul ne le sait. Sur quoi va-t-elle déboucher? Mais nous sommes persuadés qu'une autre solution évitera le massacre, la fin et la destruction inutile et farfelue de la Côte d'Ivoire. Et cela est en tout état de cause un acquis. J'espère que la bonne résolution de la crise ivoirienne va de surcroît mettre fin à la dictature de certains pays et de la sous-région comme le Burkina, le Togo et le Burkina en ce moment qui doivent certainement revoir leur copie en matière de démocratie. Paix pour l'Afrique.
Le corojo et tu peins comme un daïe.
bien sûr dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. La situation en Côte d'Ivoire est très très inquiétante. Et nous allons nous retrouver tout de suite avec notre collaborateur, directeur et directeur du journal Afrique Compétences, Honoradé Danan, pour qu'il nous fasse la situation actuelle qui prévaut en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il est déjà en ligne. On le prend tout de suite. Monsieur Honoradé Danan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes directeur du journal panafricain Afrique Compétences. Quelle est la situation actuelle en Côte d'Ivoire? Ouattara, dans son discours à la nation, annonce la fin de la guerre.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est un discours qui a été dicté par la France et tous les pays coalisés autour de la France. De quoi s'agit-il? Il se trouve que avant la date du 31 mars, la nationalisation de l'achat et de la vente du cacao devait être mise en exécution. Donc nécessairement, tous les grands entreprises qui spéculent sur le cacao, c'est-à-dire qui achètent le cacao et le vendent sur le marché international, se sentaient dans l'obligation et l'ont fait savoir de payer à Laurent Gbagbo ce qu'il devait à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, dans le même temps, l'Union européenne a fait injonction à la France et à tous ceux qui sont autour de la France et qui animent cette guerre, de mettre fin à l'embargo au niveau du port, à tous les embargos qui ont été pris. Donc face à cette double, quand l'Union européenne a fait injonction, il s'agit de leurs tribunaux et tout. Donc face à cette double situation, ils ont conduit une guerre éclair pour pouvoir prendre possession d'Abidjan, c'est-à-dire du port. À l'heure où je vous parle, par exemple, la licorne occupe le port d'Abidjan. Donc, ils ont maintenant les deux ports, le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Donc, ils peuvent faire écouler, sans passer par l'État de Côte d'Ivoire, le cacao ivoirien. Ça, c'est la première lecture qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir seulement une lecture économique. Il ne faut pas avoir seulement une lecture politique. Alors, l'aspect politique des choses, c'est que nous sommes dans une impasse. Si les Français ont fait fi de cette impasse politique-là et ont accepté que Ouattara se déclare président, malgré qu'il n'ait pas été investi par le Conseil constitutionnel, malgré qu'il n'ait pas prêté serment et tout, c'est parce que tout simplement, il y a un déterminisme économique qui fait que les affaires doivent prendre le pas sur les questions politiques. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente. C'est-à-dire, Ouattara aujourd'hui dispose de tous les leviers politiques, apparemment, mais ce qui est important, c'est surtout les aspects financiers, économiques, le cacao. Quand je dis dispose de tous les leviers politiques apparemment, c'est que sur le terrain, Ouattara aujourd'hui ne peut pas gouverner. Ça, au moins, vous le savez. Il n'a pas le palais présidentiel, il n'a pas la résidence présidentielle, mais il n'a pas tous les camps de gendarmerie, tous les camps militaires, et surtout c'est un camp de la police. Donc aucune armée, il n'y a pas eu de reddition de l'armée ivoirienne, tout comme il n'y a pas eu de reddition de l'armée de Gbagbo lui-même. Donc nous sommes toujours, c'est le statu quo. C'est-à-dire, Ouattara ne dispose pas des leviers du pouvoir en Côte d'Ivoire à l'heure où je vous parle. Les choses peuvent évoluer parce que la France s'implique fortement dans cette guerre aujourd'hui. Tous les prétextes sont bons pour s'attaquer à la résidence du chef de l'État. Hier, au prétexte que l'ambassade, la résidence de l'ex-ambassade de France, résidence voisine au chef d'État a été attaquée à l'armure. On a imputé cela au camp de Gbagbo et la France a continué à bombarder cette résidence, à faire descendre des militaires pro-Gbagbo dans le pourtour résidentiel, alors que je suis convaincu que lorsqu'ils ont vérifié, ils se sont bien rendus compte que c'est pas le camp de Gbagbo qui a tiré sur l'ambassade et que c'est plutôt pour provocation du camp Ouattara ou pour un simple prétexte. Parce qu'il y a eu un démenti formel des forces de sécurité de la Côte d'Ivoire, et malgré ce démenti formel-là, la France a fait fi de cela pour s'attaquer à la résidence du chef de l'État.
Merci beaucoup, Honora Deidan, pour le développement de la situation et alarmante en Côte d'Ivoire.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Notre premier invité de Fenêtre sur l'Afrique de ce soir est déjà en ligne depuis la Belgique. J'espère que la ligne, elle est vraiment bonne. Nous allons le prendre tout de suite. Et il s'agit de Monsieur Jean Kasongo. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Et vous êtes panafricaniste, politologue, vous connaissez très bien la Côte d'Ivoire, et ce pays qui vit un moment crucial où cette crise a fait déjà plusieurs mois. Et vous avez probablement écouté tout à l'heure notre collaborateur Deidan, journaliste et directeur du journal Afrique Compétences, qui vient d'affirmer que le port d'Abidjan et de San Pedro est déjà occupé par la France. Alors, Laurent Gbagbo, selon vous, s'accroche-t-il au pouvoir, comme l'affirment certains médias internationaux, ou combat-t-il, selon vous, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Comment est-on arrivé à ce stade de la crise ivoirienne qui divise beaucoup d'Africains?
Bon, je vais brièvement faire un petit aperçu pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe exactement maintenant. Monsieur Gbagbo, c'est un monsieur qui a lutté quasiment toute sa vie pour la souveraineté et la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a été emprisonné plusieurs fois sous Oufouet Boigny, ensuite même sous Ouattara. Et en 2000, il a eu la chance d'accéder au pouvoir. Ce monsieur, malheureusement, quand il est arrivé au pouvoir, il avait un plan déjà conçu pour la souveraineté de son pays et pour l'avancement économique de son pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a jamais laissé gouverner. Parce que dans son plan politique et dans son plan économique, c'était de totalement retirer tous ceux qui étaient mainmise de la France et le redonner totalement à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a fait la rébellion, d'abord un coup d'État en 2002, ensuite la rébellion en 2004. Et de 2004 jusqu'en 2010, il n'a eu que la pression internationale pour qu'on aille aux élections. Donc il ne gouvernait que pour aller aux élections. Vous comprenez bien que, d'abord, il n'avait pas les mains libres, on avait divisé, scindé le pays en deux, et finalement, quand il a décidé d'aller aux élections, le monsieur a bien fait d'aller aux élections au moment qu'il fallait, et qu'est-ce qui se passe? Les résultats, vous savez comment ça s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire. Les élections ont été proclamées dans un hôtel, ce qui n'est anticonstitutionnel. Il y a eu le braquage du président de la commission électorale indépendante par deux ambassadeurs, celui de la France et celui des États-Unis, ce qui est un fait un peu bizarre. Il y a eu des lettres écrites par Nicolas Sarkozy au président de la commission électorale pour attribuer la victoire à M. Ouattara, etc. et tout. Ce qu'on doit savoir aussi, que M. Ouattara, en Côte d'Ivoire, n'est pas considéré comme un véritable Ivoirien. Donc, si vous allez aujourd'hui, parce que quand on fait des élections réellement, on doit quand même sonder le peuple. Qu'est-ce que le peuple pense, etc. Aujourd'hui, la quasi-totalité du peuple en Côte d'Ivoire ne considère pas M. Ouattara comme un Ivoirien. C'est déjà un problème terrible. Et deuxième chose, on le considère comme le père de la rébellion. Comme étant le père de la rébellion. Alors, si on dit que M. Gbagbo, aujourd'hui, est en train de s'accrocher au pouvoir, moi, je dirais tout simplement que c'est pas vrai. Parce que ce monsieur, jusqu'à preuve du contraire, s'est agi démocratiquement. Au moment où on avait annoncé les résultats par le camp Ouattara, lui, il ne savait même pas qu'on annonçait ce résultat, parce que on devait laisser le pouvoir.
Allô? Allô?
Vous m'entendez?
Allez-y, oui.
Oui, voilà. On devait laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. On l'a jamais fait. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je peux confirmer que M. Gbagbo ne s'accroche pas au pouvoir. Il ne fait qu'exercer ce qui a la Constitution à décider. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
Oui, monsieur Jean Kasongo, Gbagbo réside toujours, et jusqu'à quand peut-il tenir? Puisque nous avions appris que plusieurs de ses hauts gradés et de son armée l'a abandonné. Autre chose inquiétante, Ouattara est lourdement armé et soutenu par l'ONU et la communauté internationale.
Oui, il y a quelques jours, autour d'ici, c'est vrai que l'ONU-ci, du moins, était totalement pro-Ouattara. Mais il y a 3-4 jours d'ici, il y a eu un changement. Il y a eu, on a révoqué M. Choi, celui qui avait pour certifier les résultats. On l'a changé par un émissaire russe, que lui, aujourd'hui, essaie de rééquilibrer un peu l'ONU-ci, et que l'ONU-ci revienne à son rôle premier, c'est de protéger la population, et ensuite de préserver la paix. Alors aujourd'hui, on peut plus dire que Gbagbo n'a plus les moyens de résister. Il aura les moyens de résister parce que pour pouvoir dégager un président, il faut que la population soit contre lui et il faut que l'armée soit contre lui. C'est pas le cas. C'est pas le temps que je pense que avec un peu de patience, Gbagbo, il arrivera à montrer à la communauté internationale que la vérité, elle est têtue et la vérité finira par apparaître. Et c'est ce que la communauté internationale ne veut pas entendre.
Oui, Jean Kasongo, la France affirme que la force Licorne intervient militairement dans cette crise ivoirienne pour la paix civile des Français, des étrangers aussi, même pour des Ivoiriens. Comment interprétez-vous alors cette méthode de la France dans cette crise ivoirienne ?
La France est venue uniquement pour des raisons économiques. En réalité, quand on regarde bien le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Aussi bien M. Ouattara que M. Gbagbo ne représentent quasiment rien pour la France. Ce qu'il y a, le pays est assez riche et la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Il faut regarder la position géographique de Guinée, il faut regarder ce qu'il y a comme dans le sous-sol, etc. et tout et tout. Donc la France aujourd'hui, si elle perd la Côte d'Ivoire, c'est quasiment toute la sous-région francophone qui sera déstabilisée. Donc ça sera pratiquement le début de la chute de l'Empire français. Alors c'est normal qu'ils ont envoyé des militaires pour essayer de préserver cela. Et aujourd'hui, ils ont un candidat qu'ils avaient déjà bien fait, bien entretenu. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent essayer de taper Gbagbo. Comme ça, Gbagbo est hors jeu. Et eux, ils investissent leur président qui re-signera, refera les accords d'antan, etc. et tout avec eux. Mais je pense que ça va être un peu difficile.
Oui, Monsieur Kasongo, une dernière question, puisque le temps est compte. Nous, Ouattara, dans son discours à la nation ivoirienne hier, accuse Gbagbo d'avoir organisé des tueries avec des mercenaires. Dans ce même discours, Ouattara appelle les fils de ce beau pays à une réconciliation, au pardon, afin de reconstruire la Côte d'Ivoire. Cela est-il possible quand on sait que Gbagbo n'a pas encore rendu le tablier ?
Ça, c'est une question même très simple à comprendre, même à répondre, très simple. On n'est ici pas dans une déclaration de guerre au préalable. C'était des problèmes électoraux. Donc pourquoi est-ce qu'il faut arriver à armer les gens et à faire des incursions dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et arriver même à Abidjan à tuer des gens? Donc si aujourd'hui M. Ouattara prétend que M. Gbagbo est en train de tuer des gens, c'est faux, parce que M. Gbagbo attend Abidjan, il dit « Allons ». Il a rappelé plusieurs fois au comité international « Créer une commission d'enquête pour venir voir la vérité ». Et la vérité c'est quoi? Aller recompter les voix. C'est là qu'il faut les voir. C'est pas aller au panel de l'Afrique, ceci, etc. Et tout. Non, venez, on va recompter les voix. Et ça, on ne veut pas. Par exemple, il y a des endroits au nord là-bas, où il y a dans des villes où il y a 300 000 habitants, et bizarrement, au deuxième tour, il y avait 600 000 votants. Sous 300 000 habitants. Comment vous pouvez expliquer ça? Et toutes les preuves sont là. C'est pour ça que l'Union européenne et la communauté internationale éludent justement ce problème-là. Que Gbagbo demande, allez recompter les voix. Alors aujourd'hui, si on dit que lui, l'arme des gens est tue, et tout et tout. C'est faux. La conquête de tout le pays, qui le fait maintenant d'une manière assez brutale, c'est Ouattara. Donc on ne peut pas imputer. Non, c'est pas possible.
Jean Kasongo, en tout cas, merci d'avoir été en direct avec nous depuis la Belgique. Je rappelle que vous êtes panafricaniste, politologue et vous connaissez très bien la politique ivoirienne.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Retour maintenant au Togo et avant de prendre notre premier invité de Fenêtre sur l'Afrique au Togo, à Lomé, et nous allons tout de suite prendre notre correspondante Fabi Kwasi qui est déjà en ligne depuis Lomé. Fabi Kwasi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Fabi Lefrac, au Front républicain pour la tenance sur le changement, est toujours au front pour ses revendications. Que peut-on retenir alors cette semaine des manifestations de ce front?
On va dire qu'encore un samedi aux couleurs du Front républicain pour l'alternance et le changement, très faible mobilisation, mais la détermination reste intacte. Au niveau des interventions, on va retenir essentiellement celle de Claude Amégonvi qui a demandé une minute de silence pour tous ceux qui sont tombés sous l'insigne des pères et fils, les morts de la lagune, de Frère au Jardin et les milliers de Togolais qui ont permis à Faure d'accéder au pouvoir dans le sang. Pour lui, certains se disent opposants alors qu'ils sont dans le RPT. Certains sont de retour, sont côte à côte avec le pouvoir, l'accompagnent et disent défendre le peuple togolais. Le leader du Parti des Travailleurs appelle donc les Togolais à une mobilisation monstre pour prouver à ceux que le FRAC traite de traître, que le peuple a tout compris. Allusion faite donc au Front Sage. Claude Amégonvi n'a pas mâché dans ses mots. Jean-Pierre Farr, dans le même sens, rappelle que leur adversaire, c'est le RPT, mais s'il y a des individus qui veulent s'acoquiner avec le pouvoir pour faire échouer la lutte de tout ton peuple, le FRAC sera toujours là pour s'y opposer. Rendez-vous donc dans une semaine pour faire le point sur les deux manifestations, celle du FRAC et celle du Front Sage. Les jeudis et les vendredis sont systématiquement empêchés de manif avec la séquestration des leaders par les éléments des services de renseignement et la gendarmerie. Qu'à cela ne tienne, le FRAC appelle à de nouvelles marches ce jeudi et le vendredi prochain et redonne pour samedi.
Oui, Fabi Kouassi, merci beaucoup. Il semblerait que le pouvoir de Faure Gnassingbé met en difficulté les investisseurs au Togo. Est-ce que cette information est vérifiée, Fabi Kouassi?
Oui, les hommes d'affaires dans l'œil du cyclone au Togo de Faure Gnassingbé, après Sama et Sora Blanc, le DG de Redémarre, qui croupit toujours dans les geôles de la prison civile de Lomé, dans une histoire sans tête ni queue, dans laquelle les pontes du pouvoir se sont partagées des centaines de millions en toute impunité. Le pouvoir coupeur de tête du Togo a jeté son dévolu sur l'homme d'affaires Agba Bertin, dans un montage grotesque assez flou où on parle d'escroquerie internationale et haute trahison, où le plaignant, un supposé Youssef Abbas, n'a daigné montrer, c'est pour une ténébreuse affaire qu'on se permet dans ce rectangle de pays de torturer à loisir les gens, de saisir leurs comptes et leurs biens, d'arrêter de torturer leurs femmes et pendant ce temps claironne sur tous les toits que le pays est en plein processus de réconciliation. Qui a donc, on rappelle que le Togo a quand même signé la convention contre la torture. C'est aussi et surtout ça, le Togo, les tests sont bien ratifiés, mais ne sont pas appliqués. Jamais 203, Sylvain, tu le disais tantôt, après Sama et Agba, c'est au tour de la Kakouri Thiaro, le DG de Monotrans, de faire les frais du pilotage à vue de Faure Gnassingbé et compagnie, en plus de lui coller aux trousses la mère qui arrête torture, prend les biens des autres. On y a ajouté cette fois-ci la direction générale des impôts de la très controversée Ingrid Awadé, qui parle de redressement fiscal et somme Monotrans de payer plus de 5 milliards aux impôts. Dans le même temps, Dame Ingrid a fait bloquer 17 000 tonnes de ciment de la société. Monotrans, un pays où tout va donc à l'envers. Comment peut-on inviter les investisseurs dans un pays où la justice n'est pas du tout indépendante et où les hommes d'affaires qui ont pignon sur rue sont jetés au nouf selon le bon vouloir du presse? Les exemples de ces maladresses sont légion, on se rappelle, des Libanais, des Indo-Pakistanais qui seraient proches de Pacha Gnassingbé et à qui on a collé également des ardoises aussi salées pour redressement fiscal, le jargon favori de la directrice des impôts. Le Premier ministre, vous le savez, de Faure Gnassingbé a beau multiplier les tournées en ce moment au Benelux ou encore en Inde, avec pour mission principale de ramener des investisseurs, le résultat reste le même, un cuisant échec. Et pourtant, le prince a placé son second quinquennat sous le signe du développement économique et dans le même temps, livre la guerre aux hommes d'affaires, le Togo des paradoxes et des intrigues.
Fabi Kouassi, merci. Rendez-vous dans deux semaines pour d'autres actualités au Togo. Merci encore une fois.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur l'actualité politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Eh bien, et notre deuxième invité au Lomé n'est autre que le professeur Aimé Tchabouré-Gogué. J'espère qu'il est déjà en ligne. Nous le prenons tout de suite depuis Lomé. professeur Tchabouré Aimé Gogué. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous depuis Lomé dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes le président de l'ADI, un parti politique au Togo. Vous êtes également membre du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement. Alors, comment se porte le FRAC après plus de 12 mois de contestation de l'élection présidentielle dont Fonia Simbé continue toujours à diriger ce pays, le Togo?
Non, le FRAC se porte toujours très bien. Nous continuons nos manifestations, nous organisons nos réunions. Donc le FRAC se porte bien et nous continuons à contester l'élection, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Et pour nous, Fonia Simbé n'a pas été élu président du Togo.
Oui. Allez-y, oui.
Donc, pour nous, il n'est pas élu, c'est un président peut-être de fait, mais nous contestons. Et si vous voyez, les contestations sont devenues un peu plus intensives. Avant, nous faisions une marche par semaine et nous avons une séance de prière le mercredi. Maintenant, nous avons des manifestations les jeudis et les vendredis. Et nous avons les anciennes manifestations qui avaient cours. Donc, ça veut dire que le FRAC se porte très bien actuellement et c'est l'organisation de contestation de l'eau actuellement au Togo.
Oui, et quelle est l'affluence cet après-midi au Togo?
Donc, il y avait. Donc, ce n'est pas comme la grande affluence des années, des mois de mai, juin, juillet, août l'année dernière, mais quand même, il y a quand même un peu. Il y a du monde, il y a quand même du monde, oui. Nous sommes satisfaits quand même qu'il y a un fond, une base de gens qui continuent à marcher avec nous, qui continuent à prouver qu'ils ne sont pas satisfaits des proclamations des résultats et de la conduite et de la gestion des affaires publiques au Togo.
Oui, il reste toujours en ligne avec nous, Romain, basé en Allemagne. Romain, rebonsoir.
Bonsoir, professeur.
Oui, bonsoir, Romain.
Même si l'on connaît votre position au FRAC sur la loi Bodjona, il n'en demeure pas moins vrai que cette loi suit son chemin. Des indiscrétions nous ont fait savoir que vous avez eu une séance de travail avec le Front Sage. Est-ce qu'il y a quelque chose à filtrer de cette rencontre? Quelle est actuellement votre position par rapport à cette loi et que pensez-vous du Front Sage?
Bon, concernant la loi, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est une loi liberticide. C'est à cet effet qu'aucun membre du FRAC n'a participé aux réunions convoquées par le ministre de l'administration territoriale pour revoir la loi. Donc pour nous, la loi est mauvaise, il faut la retirer. Nous regrettons que des associations et des organisations qui se disent de l'opposition, qui se disent lutter pour la démocratisation du pays, qui se disent lutter pour la liberté de réunion, d'association et d'expression au Togo, puisse accepter, participer à travailler sur une loi aussi inique. Ça, c'est ce que nous pensons de la loi. Nous avons eu des informations sur ce qu'ils ont proposé, effectivement, et il paraît avoir quelques changements, c'est totalement insuffisant par rapport à nos anticipations, par rapport à une véritable démocratie dans le pays. Ça, c'est ce qui concerne la loi. Pour ce qui concerne le Front Sage, pour nous, évidemment, nous luttons pour la démocratie, donc nous ne pouvons pas être contre la création d'associations qui veut ouvrir dans ce sens. Mais, évidemment, si vous lisez le mémorandum du Front Sage, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dedans. Ils nous l'ont envoyé au cours de la semaine. Nous allons réagir à ça. Pour nous, actuellement, pour l'Alliance de démocrates pour le développement intégral, nous vivons une crise morale profonde au Togo. Il n'est pas question de s'associer à des gens qui sont amoraux, qui sont corrompus et qui tuent et qui violent les droits de l'homme dans tous les sens. Donc, si le Front Sage s'engage dans cette voie avec nous, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Mais si le Front Sage pense qu'il y a des solutions intermédiaires, qu'il ne peut pas adopter une solution aussi claire et transparente, je crois que probablement nous allons avoir des problèmes avec leur direction. Ça, c'est la position de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral vis-à-vis du fonçage. Donc, nous ne sommes pas contre la création d'associations, puisque nous voulons la démocratie. Le FRAC ne peut pas avoir le monopole de la lutte, mais en même temps, il faut que ce soit très clair pour nous qu'il y a actuellement deux camps, le camp RPT et le camp des gens qui luttent pour la démocratie. Il est difficile de dire qu'on est en situation intermédiaire. Pour nous, ça parle. Ce n'est pas possible, compte tenu de la crise sociale et morale, surtout que vit le peuple togolais.
Aimé Tchabouré Gogué, merci. Eh bien, nous allons tout de suite nous rendre en France et cette fois-ci, nous allons retrouver Brigitte Amegambi, vice-présidente de Synergie Togo, une association basée en France, j'espère qu'elle est déjà en ligne. Brigitte Amegambi, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Synergie Togo. Je viens de le dire tantôt, une association basée en France. Et l'un de vos objectifs est de défendre collectivement les droits de la diaspora togolaise. Alors, Brigitte Amegambi, dans votre pays d'origine, le Togo, un projet de loi sur les manifestations publiques nommée, entre guillemets, loi Bojuna, est en train de diviser le paysage politique. Tandis que certains pensent qu'il faut aller discuter. D'autres pensent que c'est plutôt un piège et qu'il faut éviter. Quelle est votre opinion là-dessus, Madame Brigitte Amegambi?
Notre opinion sur ce projet de loi, nous pouvons la résumer en deux questions. D'abord, pourquoi cette loi maintenant et dans l'urgence? Ça, c'est notre première question. Et la deuxième question, c'est a-t-on le droit, 50 ans après les indépendances, de faire une loi qui est beaucoup plus répressive que la loi coloniale qui existait jusqu'à présent et qui régissait les manifestations publiques? A-t-on le droit en tant que pays indépendant, alors que tous les pays avancent, vont de plus en plus vers plus d'état de droit et plus de démocratie et plus de bien-être des populations, avons-nous le droit au Togo d'aller à reculons? Alors, pour répondre à la première question, Synergie Togo s'est intéressé au projet de loi qui a été adopté par le Conseil des ministres parce que par le travail que nous avons fait il y a jusqu'à l'année dernière, avant les élections, sur les processus électoraux au Togo, nous nous sommes aperçus que à chaque fois que le RPT commence à tripatouiller les textes, c'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Donc la réponse, elle est évidente à la première question que je viens de poser. Si le RPT s'est attelé à l'adoption de ce projet de loi, alors que l'ensemble des partenaires de la vie politique togolaise ont signé un accord de politique globale en 2006, lequel accord prévoit des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui n'ont toujours pas vu le jour aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, le RPT se lève et le Conseil des ministres statue sur un projet de loi. C'est que, à coup sûr, le RPT est encore en train de préparer les conditions pour nous organiser encore des élections frauduleuses et truquées. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que 2012, c'est l'échéance de l'Assemblée nationale actuelle, donc il y aura des législatives en 2012, et il est question, avant ces législatives, d'organiser les élections locales, donc certainement que le dispositif est en place encore pour museler ce qui reste de l'opposition, empêcher les partis d'opposition d'informer les Togolais et leurs militants sur les enjeux que représentent les prochaines échéances électorales et ce qui leur permettra, encore une fois, d'organiser des élections et de se proclamer vainqueurs et de prendre en plus, à ce moment-là, pourquoi pas la totalité des postes qui sont offerts à la tête des municipalités togolaises et finalement d'avoir la quasi-majorité à l'Assemblée nationale, si ce n'est pas la totalité des sièges à l'Assemblée nationale, finalement. Hein.
Oui, et Brigitte Amegambi, et vous êtes aussi panafricaniste à Synergie Togo. Évidemment, sur le continent africain, c'est le paradoxe. Tandis que la démocratie s'installe dans les pays du Maghreb à travers une rébellion, elle bat du plomb dans les ailes en Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, au Togo et même en Côte d'Ivoire, et qui aujourd'hui est en guerre après les élections présidentielles. Quelle analyse faites-vous de la situation politique actuelle de ces pays que je viens de nommer, Brigitte Amegambi?
Oui, mais là aussi, je me pose une question. La question est la suivante. Où va donc l'Afrique francophone à reculons? Parce que ce que l'on constate, c'est qu'en Afrique, sans arrêt, nous reculons. Les quelques avancées démocratiques qui ont eu lieu à la suite des soulèvements populaires du début des années 90 ont été complètement bradées, et de plus en plus, et je le disais tantôt au sujet de cette loi réglementant les manifestations publiques, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que disent certaines personnes qui sont les spécialistes du vide juridique, il n'y a pas de vide juridique au Togo concernant les manifestations populaires. C'est simplement, les manifestations sont régies par une vieille loi qui est une loi coloniale. Et bon, aujourd'hui, le gouvernement togolais, 51 ans bientôt après l'indépendance du Togo, va proposer une loi régissant les manifestations qui va être plus répressive que la loi coloniale. Est-ce que c'est ça la conception que nous avons en Afrique de notre indépendance? Et je constate aussi avec amertume que les pays que l'on citait comme étant de manière certaine des pays où au moins il y a une avancée démocratique, on citait le Mali, le Bénin.
Le Bénin, exactement, oui.
Le Bénin, j'écoutais même le président de l'OIF la dernière fois dans une émission sur RFI, M. Abdou Diouf, qui disait que l'OIF avait réussi à organiser des élections propres au Togo. Bon, je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Mais voilà que le Bénin aussi se met à nous organiser des élections à la togolaise. Donc il ne reste plus à ce moment-là que le Mali. Et nous attendons à ce moment-là que le Mali et le Bénin s'alignent sur l'ambiance générale en modifiant la constitution. La Guinée, nous avions salué l'élection de Alpha Condé, opposant historique, comme on les appelle. Mais il faut reconnaître que si ça n'a pas dégénéré comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est parce que Sélou Diallo a eu l'élégance d'accepter sa victoire et peut-être d'attendre une autre échéance électorale pour compétir loyalement. Et voilà qu'il revient d'exil et on l'empêche. On empêche ses militants d'aller l'accueillir, donc la manifestation réprimée dans un bain de sang, alors qu'on peut quand même dire que si Alpha Condé est au pouvoir aujourd'hui, il le doit peut-être à 51% au résultat de ces élections, mais au moins à 49% à l'élégance et à l'honnêteté de son adversaire qui a reconnu sa victoire et s'est retiré de la contestation. Partout ailleurs, au Sénégal, vous savez ce qui est en train de se tramer. Le Sénégal était un pays dont on vantait la justice, qui était une justice vraiment impartiale, indépendante du pouvoir, etc. L'évolution du Sénégal sous la présidence de Maître Ouad, un avocat, ça laisse à désirer. Donc je suis vraiment inquiète sur l'avenir.
Oui, oui, Brigitte Amegambi, la situation est vraiment alarmante, où la démocratie est en danger en Afrique. Alors, pour une dernière question, notre collaborateur de cette émission, Romain, est en ligne en Allemagne. Romain, bonsoir.
Bonsoir. Madame Amegambi, que pensez-vous de la situation d'occupation de fait de la France en Côte d'Ivoire et qui, sous un argument justifié de pouvoir protéger ces ressortissants français, occupe l'aéroport d'un pays souverain? C'est ma première équivoque. Et la deuxième est celle-ci. À quand votre retour personnel
dans votre pays d'origine, le Togo, en tant que représentant de Synergie Togo, pour mouiller le maillot avec la population togolaise qui souffre, qui a besoin encore d'autres oxygènes, comme vous, par exemple, où votre présence peut servir à quelque chose.
Brigitte Amengavi.
Oui, alors sur la première question, je dirais que je renvoie la balle, encore une fois, dans le camp des Africains eux-mêmes. Si la CEDEAO, si l'Union africaine avait été en mesure de résoudre le problème ivoirien, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et la raison pour laquelle l'Union africaine n'a pas été en mesure de résoudre ce problème, c'est que l'Union africaine elle-même est un syndicat de dictateurs avérés ou de dictateurs aspirants. Et donc, il ne pouvait pas regarder Laurent Gbagbo en face et lui dire « Bon, cher ami, vous avez perdu les élections, retirez-vous. Et puis, dans 5 ans, vous tenterez à nouveau votre chance. » Parce que eux tous, autant qu'ils sont, la manière dont ils ont accédé au pouvoir, et totalement, ils ont accédé et se maintiennent au pouvoir, est contestable. Donc ils n'avaient pas de leçon à donner à qui que ce soit dans cette affaire-là. Et il fallait quand même laisser quelqu'un d'autre résoudre le problème. Si on prend l'exemple de la Libye aussi, les populations étaient massacrées, personne, c'était le silence de l'Union européenne de l'Union africaine, était assourdissant. Et bon, il s'est passé ce qui devait se passer parce que il fallait bien protéger les populations locales. Alors quant à aller mouiller le maillot aux côtés des populations togolaises,
exactement.
Le maillot, je le mouille au quotidien pour le Togo. Donc il y a un travail qui est fait d'ici. Et qui est fait effectivement avec des moyens qui ne sont même pas accessibles, qui ne sont pas disponibles au Togo. Essayez simplement au Togo de vous connecter et d'envoyer un email. Ça vous prend 2 heures, alors que en France, vous avez envoyé un mail en 4 minutes, vous avez mobilisé du monde en 1/4 d'heure, alors que c'est totalement impossible au Togo, où les communications téléphoniques sont dans un état désastreux, tellement désastreux que l'on se demande d'ailleurs si ce n'est pas délibérément une manière de couper le sifflet à ceux qui ont des choses à dire. Les connexions Internet sont inexistantes et certaines personnes en particulier, on a l'impression que les débits sont absolument rationnés pour les empêcher de parler. Donc il y a encore des choses à faire de l'étranger et nous y attelons et nous y travaillons au quotidien.
Oui.
Nous n'avons pas oublié les populations togolaises. Il y a des gens qui sont sur le terrain et qui font ce qu'ils ont à faire. Nous estimons que nous avons aussi, avec le recul que nous avons ici et surtout avec les moyens d'information dont nous disposons, les moyens de contribuer à notre manière à cette lutte-là et nous n'avons pas baissé les bras.
Oui, Brigitte Amengavi, merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous depuis la France. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Synergie Togo, et une association qui défend collectivement les droits de la diaspora togolaise. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous.
Merci à vous.
Eh bien, et nous allons marquer une pause musicale, le temps de recevoir également en France un compatriote togolais.
Patapaya
Patapa de Ramsen de Principe, un jeune artiste togolais qui évolue actuellement en Allemagne, à Munich. Vous êtes bien sûr dans l'émission préférée Fenêtre sur l'Afrique. Nous allons recevoir tout de suite notre dernier invité, qui n'est autre que Théo Agopomé. Il est le président du CTRA, collectif des Togolais de Rhône-Alpes. J'espère qu'il est déjà en ligne. Nous le recevons tout de suite. Bonsoir Théo.
Bonsoir, chers compatriotes.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je viens de le dire que vous êtes président du CTRA, collectif des Togolais de Rhône-Alpes, une association qui est constituée en avril 2005, au lendemain de la mort de feu général Eyadema. Votre collectif regroupe évidemment des Togolais résidant dans la région de Rhône-Alpes en France. Alors, et Théo Agopomé, vous venez d'organiser le samedi 23, vous organisez, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous organisez le samedi 23, disons dans deux semaines, dans le cadre de la célébration du 51e anniversaire de la fête de l'indépendance du Togo, une conférence débat dont le thème, la problématique du pouvoir dans la gouvernance en Afrique. Alors, la démocratie est en danger ces moments dans plusieurs pays en Afrique. Et si on veut revenir encore au Togo, et quelle est faites-vous de la crise politique togolaise?
Ben, je crois que vous avez bien posé le cadre de notre débat au cours de cette conférence. C'est la question de la de l'exercice, hein, du pouvoir en Afrique. Et on voit aujourd'hui sur le continent africain, notamment dans la partie nord de l'Afrique, une montée de revendications démocratiques dont certaines ont trouvé des issues favorables. S'agissant du Togo, la question se pose depuis des décennies, hein, et donc la question du droit des Togolais de choisir librement leurs dirigeants et à travers eux la politique qu'ils veulent voir mener se pose depuis pratiquement 50 ans. Et ce n'est pas faute pour nos concitoyens de l'avoir revendiqué parfois au péril de leur vie. Et donc la situation actuelle, certains interlocuteurs l'ont dit précédemment, est dramatique. Elle est vraiment dramatique puisque quand on regarde l'état de notre pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, on peut dire que c'est vraiment un état de délabrement avancé. Ceci étant, tout à l'heure, je crois que c'est Mme Amegawi qui constatait le recul de la démocratie dans la zone de l'Afrique dite francophone. C'est un fait. Mais je dirais que si les systèmes démocratiques régressent, l'aspiration à la démocratie, elle est toujours présente, elle est même en augmentation, et on le voit tous les jours à travers la persévérance de nos compatriotes qui continuent de marcher, de manifester, de revendiquer, eh bien, et puis le peuple qui, lui, derrière, même s'il est dans la difficulté, a un certain nombre d'acquis sur lesquels il sera difficile de revenir. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, la situation politique au Togo est caractérisée par une confusion, je dirais que telle que on se demande si nous n'avons pas tout connu dans notre pays, dans la mesure où nous avons actuellement un gouvernement d'union nationale partielle qui associe le RPT avec ce qu'il reste du parti de celui qu'on appelait autrefois l'opposant historique, voilà, et une partie de l'opposition qualifiée maintenant de radicale qui continue de protester, et alors qu'une autre partie reste muette. Je dirais que c'est un scénario difficile à envisager il y a simplement 3 ans. Avec le résultat qu'on sait, puisque...
Évidemment, Monsieur Théo Agopomé, malheureusement, le temps qui nous fait défaut, puisqu'il reste encore 6 minutes pour terminer cette émission, alors dites-nous brièvement ce qui va se passer justement à Lyon, oui, où votre collectif organise également une grande fête de retrouvailles marquant la fête de l'indépendance du Togo, 51e anniversaire du Togo, hein, de l'indépendance du Togo.
C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, c'est une manifestation à 3 temps, organisée principalement autour d'une conférence débat dont vous avez rappelé le thème tout à l'heure, qui est la problématique du pouvoir dans la gouvernance en Afrique, avec en illustrant le Togo, la Côte Côte d'Ivoire et puis ce qui se passe en Afrique du Nord. Donc, trois temps, la conférence débat qui en constitue le temps fort. Et donc, cette année, nous avons deux intervenants, le professeur Léopold Messani-Lévy qui sera secondé par notre compatriote journaliste Jean-Baptiste Placat. Et donc, c'est le premier temps. Après la conférence, nous avons un temps plus, plus culturel, on va dire, puisqu'il ne faut pas rester sur des constats tristes, il faut quand même gémir, mais en même temps espérer. Après la conférence, il y a donc l'animation d'une soirée culturelle de danse traditionnelle par une association qui s'appelle Adjobo ici, et ensuite une soirée dansante suivra jusqu'à l'eau. Voilà pour nous résumer les trois temps forts de cette manifestation.
Merci encore une fois et Théo Agopomé. Je rappelle que vous êtes le président du CTRA, collectif des Togolais de Rhône-Alpes, une association qui est constituée en 2005 au lendemain de la mort de feu général Gnassingbé Adéma. Et je rappelle que votre collectif regroupe évidemment des Togolais résidents de la, dans la région de Rhône-Alpes en France. Encore une fois, bonsoir Théo Agopomé.
Merci à vous pour votre émission et pour votre soutien.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Et je vous rappelle que cette émission continue toujours, ou bien le programme continue toujours sur Radio Canal K. Nous vous souhaitons bonne soirée, excellente soirée à toutes et à tous. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.togocity.com et www.icilomé.com et également www.mo5-togo.com ou encore www.diasporatogo.org. Encore une fois, merci Josué Maoli, Esteban Gagnon, Gisela Rosato, Romé Koudjodi, Fabio Kouassi. Au micro, c'était Sylvain Amos.